Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau point de mire qui nous donne le plaisir d'aller à la rencontre du grand événement de la littérature économique annuelle, le Prix Turgot. Le Prix Turgot tiendra sa 24e édition à l'invitation de Madame le ministre de l'économie et des finances, Christine Lagarde, à Bercy, ce 12 avril prochain, 12 avril 2011, donc à Bercy. Et j'ai le grand plaisir de recevoir le président du grand jury du Prix Turgot, Michel Bon.
Bonjour.
Michel Bon, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler donc de cette nouvelle nomination, comme on dit maintenant. 6 nouveaux candidats au prix, et vous avez donc arrêté cette liste, et nous allons donc en parler ce matin. Alors, d'abord, un grand cru, semble-t-il.
Bah oui, c'est en gros la troisième année que nous regardons des livres dans la crise, quoi. Alors en 2008, le thème général de nos choix, c'était cette crise qui nous tombe dessus, où est-ce que ça va nous mener, quoi. Quelles sont les issues possibles? Il y avait les optimistes, il y avait les pessimistes, etc. En 2009, on prenait déjà un peu de recul et on se disait, au fond, la crise, pourquoi, qui est coupable, comment ça a pu arriver, etc. Et alors là, nous avons le cru 2010, puisque nous regardons les livres qui ont été publiés en 2010. Et alors là, on prend vraiment de la hauteur cette fois-ci et on se dit, au fond, cette crise, maintenant, elle n'est pas tout à fait derrière nous, mais enfin, on commence à la penser maîtrisée. Et ces livres nous disent, alors, quels enseignements on peut en tirer? Qu'est-ce que ça nous a appris? Quel progrès ça peut nous faire faire? Quelles ornières nous avons repérées dans lesquelles il ne faudrait pas retomber? Et 5 des 6 livres qui ont été choisis abordent tous, sous un thème ou sous un autre, cette après-crise, en somme.
Alors, cette après-crise, mais il y a aussi... Alors, je crois qu'on va peut-être rappeler, avant d'aller plus loin, quels sont ces nominés. Il y a d'abord M. Eli Cohen, pour un ouvrage « Penser la crise » aux éditions Fayard. Jean-Marc Daniel, « Histoire vivante de la pensée économique » aux éditions Personne. Patrick Dumière, pour « Le développement durable va-t-il tuer le capitalisme ?» chez Maxima. Philippe Erlin, pour « Finance, le nouveau paradigme » aux éditions Erol. Et 2 duos, si je puis dire, Augustin Landier et Tesmar David, pour « La société translucide » chez Fayard. Et un autre duo, donc Gilles Dufresneau et Alain Zand-Zantman, pour « Après la crise, des politiques économiques du monde » chez Economica. Donc, effectivement, la plupart de ces ouvrages abordent ce sujet de l'après-crise, mais certains sont aussi tournés sur une approche, on va dire, de la pédagogie de la crise et du pourquoi de cette crise.
Alors, on peut dire qu'il y a 2 ouvrages qui, au fond, puisent dans la réflexion économique, dans toute la pensée économique, pour essayer de comprendre les choses et de voir quels enseignements en tirer. Le premier, c'est celui d'Eli Cohen, qui est un professeur à Dauphine, qui s'appelle « Penser la crise ». Et c'est un ouvrage qui est très complet, qui, au fond, s'interroge d'abord sur qu'est-ce qui, dans cette crise, ne s'est pas passé comme on avait prévu, parce que les économistes n'ont jamais manqué de prévoir. Et puis, ça ne s'est pas souvent passé comme ils avaient prévu. Donc, il essaye de repérer, c'est un passage assez intéressant, quels ont été les points de défaillance, finalement, là où on avait plutôt prévu ça et où ça ne s'est plutôt pas passé comme ça. Puis, il essaye d'en tirer quelques enseignements. Et puis, alors, évidemment, il y va de ses explications de la crise, ça, c'est normal. Et il termine toute une dernière partie très fournie qui cherche des perspectives. Il est d'ailleurs assez optimiste. Il ne pense pas qu'il y ait de bouleversements à prévoir dans les systèmes. Enfin, c'est un vrai ouvrage de référence, je dirais, qui est très intéressant. Le deuxième, qui est un peu dans la même veine, c'est celui de Jean-Marc Daniel. Alors Jean-Marc Daniel, lui, est aussi professeur d'économie. Il est le patron d'une revue que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Sociétal. Et ça s'appelle « Histoire vivante de la pensée économique, des crises et des hommes ». Et alors lui, c'est plutôt une espèce de parcours dans toutes les théories économiques. Et c'est d'ailleurs très intéressant. Je veux dire, donc on passe d'un penseur économique à un autre. Et chaque fois, on nous raconte de façon très bien écrite, très vivante, très accessible aussi, ce qu'a amené cet auteur-là à la pensée économique. Et puis, on passe à autre chose. Et c'est un ouvrage qui laisse le lecteur très libre, au fond. Il peut puiser à la source qui l'intéresse le plus, il peut croiser les pistes comme il l'entend. Alors bien sûr, Jean-Marc Daniel, de temps en temps, suggère des croisements, des rapprochements, mais enfin, on reste très libre. Ça rappelle un peu, d'une certaine façon, certains des ouvrages d'Alain Minc, si vous voulez, comme celui qu'il vient de faire sur les intellectuels, où au fond, ils nous présentent toutes ces intelligences. Et puis après, voilà, on se promène avec eux et on passe un bon moment, quoi.
Ensuite, le troisième dans l'ordre, si je puis dire, Patrick Dumière, lui, apporte un thème un peu plus large, qui est celui du développement durable.
Voilà, alors lui, donc, il n'est pas véritablement lié à la crise, il est lié à une autre école qui traverse notre époque, qui est le développement durable. Est-ce que, au fond, notre croissance économique, notre façon de concevoir l'économie, ne va pas tuer la planète et donc, in fine, tuer l'économie, quoi ? Et alors, il a sur cette question un point de vue résolument optimiste et assez original, c'est-à-dire qu'il dit, au fond, on est un peu sur un paquebot, et sur un paquebot, les passagers s'intéressent à la météo, alors qu'en fait, il faut s'intéresser plutôt au capitaine, quoi. Et alors, il dit, voilà, notre paquebot, c'est le monde. Le capitaine, c'est en gros quand même les chefs d'entreprise, c'est eux qui font l'économie, quoi. Et donc, il propose de s'intéresser aux chefs d'entreprise et à la façon dont l'entreprise peut, de son point de vue, qui est microéconomique, quoi, aller vers un développement durable et à quel point ceci est profitable à l'entreprise, comme évidemment au développement durable. Alors, il y a dans tout le mouvement pour le développement durable des grands prêtres qui sont assez hostiles à la croissance économique. Si vous voulez, il y a tout un courant de l'écologie qui est même contre le développement. Lui, non. Lui, il essaye de réconcilier ce développement durable et la croissance économique et le développement, et il explique même que c'est la seule façon de faire. Si on continue à opposer l'un à l'autre, on n'ira nulle part. C'est un livre très intéressant qui apporte des idées assez nouvelles.
Alors, sur les trois autres nominés, avec eux souffle une sorte de vent de jeunesse, puisque le premier est certainement le benjamin de cette nomination, Philippe Erlin, qui lui aborde le domaine de la pédagogie sur un secteur qui est particulièrement sensible, celui de la maîtrise des risques et des mathématiques financières.
Alors, Philippe Erlin, c'est un professeur de finance aux Arts et Métiers, et son livre s'intéresse à un sujet qui a été traité déjà l'année dernière. Nous avions un de nos livres qui traitait du même sujet, qui est, au fond, tous les modèles financiers se sont beaucoup trop appuyés sur certaines formes de mathématiques en ignorant les autres. Pour faire court, il y a ceux qui croient à la loi de Gauss, c'est-à-dire qu'un phénomène se reproduit beaucoup plus souvent d'une certaine façon que d'une autre, et donc, à la limite, on peut écarter les extrêmes pour comprendre la réalité et modéliser les choses. Alors qu'il y a d'autres lois qui, au contraire, font que les choses peuvent changer de toute nature. Par exemple, l'élastique, on tire l'élastique, on est au début dans une loi gaussienne, puis à un moment où il casse, alors là, on n'est plus du tout dans la loi gaussienne.
C'est une loi de puissance.
C'est quand même une loi de puissance. Et il illustre ça d'une façon qui est très claire pour ceux de nos auditeurs qui connaissent le Monopoly. Au Monopoly, il y a deux phases de jeu. Dans un premier temps, chaque fois qu'on passe à la case départ, on gagne 20 000 francs ou 20 000 euros maintenant. Et on peut avec ça acheter des immeubles qui coûtent finalement pas si cher que ça. Et au total, chaque joueur n'a aucun risque d'être éliminé, quoi. On est dans le monde gaussien. Et ça existe. Et puis alors après, là, chaque coup de dé a beaucoup d'importance. Si par malchance, on tombe à un endroit où il y a des immeubles qui ont été construits, ça coûte très cher, beaucoup plus que ce que rapporte le passage à la case départ. On passe dans le monde des lois de puissance. Et donc, il suggère de jouer au Monopoly pour bien comprendre la différence entre le monde gaussien, qui est la première partie du jeu, et le monde des lois de puissance. Et alors qu'il y a beaucoup de gens qui expliquent que voilà, le monde gaussien est fini, qu'il faut passer à autre chose, lui dit non. Mais les deux mondes existent. Il y a le monde gaussien, le monde des lois moyennes, et puis il y a aussi le monde des lois de puissance. Et il faut savoir quels sont les phénomènes qui sont exposés à une loi, aux deux ou à l'autre. Et c'est très intéressant, ça apporte beaucoup d'idées neuves, quoi.
Alors maintenant, nous rentrons dans les duos, deux duos, donc ça fait quatre auteurs. Premier duo,
Augustin Landier, David Tesmart, qui sont donc deux grosses têtes françaises, mais qui ont fait le gros de leurs études économiques, l'un aux États-Unis et l'autre à Londres. Et qui donc sont très imprégnés, je dirais, de toutes les références anglo-saxonnes dans leur culture et dans leur réflexion. Et alors, ce sont des gens qui disent, au fond, le modèle libéral semble avoir fait un peu faillite dans la crise, mais est-ce que c'est pas finalement la façon dont on fait marcher ce modèle qui n'a pas marché plutôt que le modèle lui-même. Et alors, il développe toutes sortes d'arguments sur le thème, par exemple, la régulation. Ben, ce n'est pas si facile de réguler, c'est fait par des hommes, il y a des groupes de pression, etc. etc. Donc, bon, le régulateur ne joue pas toujours bien son rôle. Comment pourrait-il le jouer mieux ? Ensuite, il s'intéresse à tout ce qui est la clarté du marché, puisque dans la théorie du marché, l'information est libre et transparente. Et il montre sans peine qu'il y a effectivement beaucoup d'opacité dans tout ça. Et donc, il plaide de façon très convaincante pour une immense amélioration de la clarté, de l'ouverture des statistiques, etc. En disant, ce qui est évident d'ailleurs, qu'avec Internet maintenant, tout ceci devient facile et que donc on a une chance historique, finalement, de donner au marché une vraie clarté. C'est un livre très stimulant parce qu'il n'est pas du tout dans les ornières habituelles. Ce n'est pas du tout une condamnation du modèle libéral, mais ce n'est pas non plus une apologie aveugle du modèle libéraliste. Non, voilà, si on veut que ça marche, il faut faire ceci, cela.
Alors, on passe maintenant au dernier de ces nominés, Gilles Dufresneau et Alain Zandman, qui sont un peu les régionaux de l'État puisqu'ils exercent en province.
Absolument. Donc eux, ils ont eu une idée, ça s'appelle « Après la crise, les politiques économiques dans le monde ». Ils ont eu une idée qui est vraiment épatante, je trouve, qui est de dire, au fond, cette crise économique, elle était mondiale, elle s'est abattue sur tout le monde en même temps, ouais. Et face à ça, on avait 240 gouvernements différents. Et chaque gouvernement s'est dit « Bon sang, il faut que je fasse quelque chose, quoi ». Et évidemment, aucun des 240 n'a fait la même chose. Et donc, ils sont allés chercher partout dans le monde, avec des exemples dans des pays même étonnants, des cas de où la réaction a été... on va dire bizarre, enfin différente de celle des autres pays.
Du consensus.
Pour essayer de trouver, au fond, des bonnes solutions et des mauvaises solutions. Alors, il y a toutes sortes d'exemples où on voit des... Alors, évidemment, ils tiennent compte des particularités propres à chaque pays. Donc, ils voient des trucs qui ont très bien marché et qu'au fond, les autres auraient pu faire. Ils voient des trucs qui ont très mal marché et ils se demandent pourquoi ils l'ont fait. Et puis, ils isolent comme ça, donc, un certain nombre de choses. Et notamment, ils font une découverte, on peut dire, oui, qui est quand même assez troublante. C'est qu'il y a beaucoup de pays... qui ont adopté des politiques anti-crise, alors que finalement, leur économie ne justifiait pas
du tout. Ils n'en avaient pas besoin.
Oui, voilà.
Ça, c'est le fameux mimétisme qu'on connaît bien au plan international. Alors donc, un cru assez exceptionnel par sa diversité, par aussi cette bouffée de jeunesse qui apparaît, mais qui pêche un petit peu, Président, par le fait que la parité est loin d'être respectée. Mais finalement, si j'ai bien compris ce qu'a expliqué le club de présélection, il n'y avait pratiquement pas de parution d'auteurs féminins cette année, alors qu'ils ont vu de l'ordre de 200 ouvrages, qui d'ailleurs représentent un travail colossal. Donc, le prix Turgot et son président ne sont absolument pas misogynes, absolument pas contre la parité, mais on fait avec ce qu'on a, comme on dit.
Ben oui, mais c'est quand même dommage, parce que les économistes prônent la concurrence pure et parfaite, alors que la concurrence pure et parfaite produise 6 hommes et 0 femmes, c'est quand même pas très plaisant. Quoi, oui.
D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, je rappelle peut-être une observation générale finale sur cette 24e édition qui se tiendra donc toujours à Bercy.
On le 12 avril, résultat des courses.
Voilà. 12 avril, le résultat des courses, probablement avec un palmarès qui sera proclamé par le ministre elle-même, Christine Lagarde. Je rappelle simplement, pour être complet, Président, donc, que cette cérémonie permettra de décerner aussi, vous me l'avez rappelé, des prix spéciaux, des prix, on va dire, hors palmarès, c'est essentiellement les ouvrages collectifs, et puis un prix maintenant traditionnel, qui est celui de la francophonie, en association avec le Forum francophone des affaires. Et enfin, bien sûr, sont délivrées des mentions d'honneur et un prix du jeune talent. Je pense que les candidats ne manqueront pas cette année si on en croit cette nomination. Voilà, donc écoutez, merci pour cette présentation extrêmement précise. Rendez-vous donc pour le résultat le 12 avril prochain à Bercy et pour cette 24e édition du prix Turgot du meilleur livre d'économie financière. Président Michel Bon, merci,
merci
pour cette
vous,
présentation. À bientôt. Thank you.